RCF.
Réduit à rien, les derniers jours de Maître Eckhart, c'est un ouvrage paru aux éditions du Cerf, rédigé par Rémi Valégeot, qui est avec nous pour nous parler de Maître Eckhart. Alors Maître Eckhart, quand on entend parler des dominicains, on pense à l'Inquisition, à la légende noire, à l'illuminisme même du Moyen-Âge. Et pourtant, Maître Eckhart, il est aussi dans ce siècle d'un optimisme conquérant, Rémi Valégeot.
Maître Eckhart participe de l'optimisme conquérant du XIIIe siècle et un Moyen-Âge que l'on envisage souvent comme un temps obscur, mais on doit et il faut parler des lumières du Moyen-Âge. Ce XIIIe siècle est effectivement un siècle de révolution dans l'Occident latin qui va engendrer la modernité que l'on connaît aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Et ce qu'on considère comme de l'obscurantisme médiéval est en fait l'entrée dans la modernité de ce que nous allons découvrir par la suite au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Alors vous parlez de transformations qui sont économiques, intellectuelles, on l'a vu, des transformations artistiques, politiques, et de quelle manière l'Église y participe ?
Alors, on est dans une transformation de la société, c'est la naissance des villes. Jusqu'au XIIe siècle, les grandes villes, elles sont à Bagdad, elles sont à Mossoul, elles sont en Orient, elles ne sont pas en Occident. Nous avons des gros bourgs. Et là, avec les fruits d'un travail au XIe siècle et au XIIe siècle, le XIIIe siècle explose avec des villes, le commerce, une nouvelle manière de penser, c'est l'avènement de l'université. La première université, c'est une université de droit à Bologne, l'alma mater, la mère des universités. Mais la grande université sur le plan intellectuel, c'est Paris, avec le collège de Sorbonne. Donc Sorbonne est un bienfaiteur qui offre à des étudiants un collège qui va donner la Sorbonne que l'on connaît aujourd'hui. Et on a une révolution de la pensée scolastique, de la manière de penser au Moyen-Âge, au moment où on a une révolution technique sur le mode de la construction architecturale. On peut rapprocher l'architecture gothique et la pensée scolastique. Regardez l'architecture gothique avec ses colonnes, ses ogives. C'est une architecture arborescente, si vous regardez bien la nef d'une église. Or, la pensée qui était très linéaire et compilative, si je puis m'exprimer ainsi, des siècles précédents, va devenir une pensée arborescente. À partir d'un élément commun, on finit par affiner, par distinction, et qui est le propre même de la scolastique, donc différentes acceptions sur lesquelles on peut disputer. Sachant que, en ces époques-là, on découvre des auteurs qui étaient connu par ouï-dire, cité par saint Augustin, mais qu'on n'avait jamais rencontré comme tel dans la propre de leur texte, à savoir Platon, les néo-platoniciens, et Aristote qui va donner la révolution du savoir du XIIIe et XIVe siècle.
Mais vous voulez dire qu'en fait, cette manière qu'on va avoir de penser, cette manière de réconcilier la foi et la raison, de clarifier, d'établir des symétries, des parallélismes, on va finalement aussi le retrouver, alors certes dans la Somme théologique de Thomas d'Aquin, mais aussi dans l'architecture. C'est ça l'art gothique.
Effectivement, c'est une manière de penser. Donc il y a l'empirisme de l'architecte et la dialectique du penseur. Il y a une analogie là à prendre en compte avec un saut dans le vide et l'un et l'autre, le saut dans le vide de l'architecte qui monte toujours plus haut et le saut dans le vide du penseur qui s'aventure dans les réalités de sciences divines et dans le mystère divin.
Alors vous évoquiez juste avant Aristote, Platon, les philosophes arabes. Quel lien vous faites avec Maître Eckhart ?
Alors Maître Eckhart est l'héritier d'Aristote. Il est plus néo-platonicien avec l'un divin qui consonne avec Adonai Erad, Dieu un de la révélation de Moïse dans les Écritures. Et il est aussi l'héritier de toute cette littérature des philosophes arabes qui permettent effectivement de repenser le monde, de repenser la manière d'approcher le mystère divin. Et lui-même, héritier de ce matériau théologique, il va le mettre à contribution sur une voie proprement spirituelle, donc de nous apprendre à approcher le Dieu inconnu au-delà de tout ce que je peux imaginer et concevoir, de ce Dieu qui n'est contraint ni par mon affect, ni par mon intellect, toujours plus loin, est-elle cette terre inconnue qui est à découvrir à tout un chacun.
Loin, mais en même temps un Dieu accessible.
C'est un Dieu accessible parce que ce plus loin, il est au plus intime de soi. Et il n'est pas le plus loin au bout du monde, c'est le plus loin dans mon intériorité qui m'échappe à moi-même. Et Maître Eckhart, effectivement, nous invite à aller in altum, donc en profondeur et de soi, pour s'élever à la hauteur même de Dieu.
Et là, on retrouve toute la spiritualité de Maître Eckhart, et cette spiritualité naît de sa théologie. C'est ce qu'on va entendre dans la lecture que je vous propose, lecture d'un extrait du texte de votre livre « Réduit à rien, les derniers jours de Maître Eckhart » et qui sont lus par le comédien Frédéric Folcher.
Le prieur aurait lâché le feuillet de parchemin si son attention à lire l'écriture fine et serrée du serment n'avait pas retenu son geste. À cet instant, ce qu'il entend et voit, bien qu'il eût déjà lu ce texte, le conduit là où il ne savait pas, dépassant tout ce qu'il eût pu imaginer ou même concevoir, non seulement de Dieu, mais aussi du maître lui-même. Il sembla en rêve à un homme. C'était un rêve éveillé, qu'il était gros de néant, comme une femme est grosse d'un enfant. Et dans ce néant, Dieu naquit. Il était le fruit du néant. Dieu était né dans le néant. C'est pourquoi il dit « Paul se releva de terre, et les yeux ouverts, il vit le néant. Il vit Dieu en qui toutes les créatures sont néant. Il vit toutes les créatures comme un néant, car Dieu a en lui l'être de toutes les créatures. Il est un être qui a en lui la totalité de l'être. » Incrédule, et ne sachant plus quoi penser ni même imaginer, le prieur laisse échapper de ses lèvres sèches la parole du prophète qui, susurré, suscite en lui sa défiance. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite de vent. Et pourtant, ce qu'il reçoit de ce texte, et mieux encore de ce rêve éveillé, voire même de cette confession, le conduit au seuil d'une révélation. Dieu naît de cette poursuite de vent qui est le propre de l'homme. Lorsqu'émergeant du néant, de toutes les figures, formes et images dont il est la plus radicale négation, il est tout simplement néant. Quand il vit le néant, il vit Dieu. Familier de la théologie mystique du divin Denis et de sa voix négative, mais aussi du prologion de saint Anselme et de son pieux exercice de la negatio negationis, il lui faut se rendre à l'évidence et concéder que ce rêve éveillé d'un homme, fût-il un frère à demi conscient et innocent de ce qu'il eût vu en songe, révèle l'essence même du mystère au-delà de tout, ce qui peut être humainement pensé quand Dieu se révèle ainsi tel qu'il est au plus intime de l'âme humaine.
Alors que veut dire Maître Eckhart quand il dit la négation de la négation ?
Quand Maître Eckhart dit « Dieu est néant », c'est qu'il n'est ni ceci, ni cela. Il est toujours au-delà. Il est la négation de tout ce qui est la négation de Dieu. Toutes mes images, toutes mes projections sur Dieu sont peut-être des négations de Dieu. Et Dieu est la négation de ces négations-là pour se révéler tel qu'il est. Et qui manifeste que toutes choses sont néant au sens où rien ne tient par soi-même si Dieu n'est à la racine de toute chose. Donc il y a plusieurs acceptions de cette réalité de néant, ni ceci ni cela. La créature n'est pas parce que Dieu est tout, tout en tant que racine de mon être. Et Dieu est tout et négation de toutes les négations qui seraient des fausses images de Dieu.
Alors c'est aussi là-dessus que Maître Eckhart va devoir se battre au cours de son procès. Il est dit dans cet ouvrage que jamais un magister n'a été contraint de répondre de ses propres assertions sans même pouvoir recourir au plus légitime exercice de la disputatio par un simple « je crois ». Je ne le crois pas. Alors ça veut dire que il est question dans ce livre de la disputation et de la pensée dialectique qu'on évoquait un tout petit peu avant.
La pensée dialectique est effectivement cette révolution de la pensée scolastique au XIIIe et XIVe siècle dont Maître Eckhart est héritier, qui fait que dans la disputatio où argument contre argument sur un mode de pensée où on cite les auteurs de la tradition, on avance toujours vers la vérité. Celle-ci se dévoile par la dialectique dans les arguments et contre-arguments des protagonistes de la disputatio. Et Maître Eckhart, effectivement, dans son chemin spirituel, nous invite à, oserais-je dire, une disputation intérieure où nous sommes invités à aller toujours plus loin dans notre approche et connaissance de Dieu.
Ce qu'il faut dire, c'est que la disputatio, ça n'écrase pas l'argument de celui qui est en face. L'idée n'est pas de dire « j'ai raison et donc laisse-moi exprimer mon idée », c'est vraiment de se nourrir de la réponse qu'a apportée celui d'avant nous, en fait. C'est ça qui est intéressant dans la disputatio. Ce n'est pas le débat tel qu'on peut le connaître parfois dans les médias, c'est vraiment autre chose.
Effectivement, c'est un chemin où on fait confiance à l'argument de l'autre. On le réduit pas à un contre-argument strict. Il nous permet toujours d'avancer et de découvrir ensemble une vérité qui se dévoile à tous, par elle-même.
Merci frère Rémi Valéjo, vous êtes dominicain à Lille. Vous évoquiez Maître Eckhart et les lumières médiévales à partir d'une réflexion de votre ouvrage « Réduit à rien les derniers jours de Maître Eckhart ». Demain, on essaiera de découvrir comment Maître Eckhart, ce dominicain du XIVe siècle, a aussi une parole pour notre temps et pour les temps de crise qu'ont traversé les différents siècles. Merci à vous.